Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc pour ce webinaire effectivement consacré au CPF. On va tâcher de répondre à la question suivante: comment vous, branche ou entreprise, pouvez abonder le compte CPF de vos salariés? Avant de discuter avec Karine Garcherie de la Caisse des dépôts, juste quelques éléments contextuels. On a voulu organiser ce webinaire pour différentes raisons. D'abord parce que le CPF est un succès indéniable en termes de volumétrie quantitatif depuis notamment sa monétisation il y a 5 ans. L'année dernière, c'était un peu plus d'1,8 million de dossiers de formation financés tout de même. Pour autant, les plus gros contingents de formés le sont sur des formations qui ne sont pas toujours directement en lien avec le poste occupé, le permis B, les bilans de compétences, les formations sur les langues. Il y a donc un vrai enjeu à ce que le CPF deviennent réellement un outil mobilisé par les entreprises dans la formation de leurs salariés, mais sur des compétences liées évidemment à l'activité de l'entreprise. Donc c'est un premier point. Le deuxième, c'est tout simplement pour répondre à des questions récurrentes de nos adhérents. C'est concrètement, ça m'intéresse de pouvoir abonder le compte CPF de mes salariés, mais comment je peux faire et à qui je dois m'adresser? Donc ça, on va tâcher d'y répondre. Et troisièmement, parce que régulièrement ces derniers temps revient dans le débat public le sujet du reste à charge et du ticket modérateur. Il y a fort à parier que ça va être effectivement mis en place dans les prochains mois ou les prochaines années. Pour autant, on ne sait pas encore vraiment sur quelle formation ni auprès de quel public, mais on voit bien ici l'opportunité aussi de plus mettre en avant encore cette capacité de co-abonnement de l'entreprise qui, de fait, pourra faire sauter ce reste à charge pour le salarié. Donc le timing est aussi opportun pour faire une focale là-dessus en ce moment. Juste également vous dire que ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre la Caisse des dépôts et le MEDEF, initié maintenant il y a un peu plus de 2 ans. L'objectif, bien, c'est de favoriser le déploiement justement de l'abonnement du CPF au sein du réseau MEDEF et d'atteindre cet objectif aussi de mieux accompagner les entreprises, les fédérations, les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leur GEPP. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'aura pas forcément le temps et c'est pas forcément l'objet aussi, mais on a eu 2 actions principales réalisées depuis un peu plus de 2 ans. Déjà toute une série de webinaires, notamment organisés par Karine et Céline, dans les territoires, dans les régions, sur ce même sujet, mais cette fois-ci aussi avec une dimension territoriale et locale plus forte et des témoignages locaux également. Sachez, vous participants, que c'est possible d'organiser de tels webinaires et qu'on est évidemment à votre disposition pour le faire. La deuxième action principale réalisée aussi dans le cadre de ce partenariat, ça a été la production de fiches synthétiques de 3 pages avec une entrée d'une part sectorielle et de l'autre territoriale, régionale, qui viennent préciser pour 2022 l'utilisation du CPF, donc en fonction de l'entrée, le champ ou le territoire, avec un certain nombre de détails aussi sur quel type de formation sur tel territoire ou dans telle branche. Quelle durée, quel coût aussi de formation et quelle pratique de co-abondement sur cette mobilisation du CPF. C'est une photographie et un panorama qui est très intéressant, qui n'existait pas et qui permet notamment aussi de constater qu'effectivement les abondements d'entreprise, s'ils sont en progression, restent encore minoritaires. Et c'est pourquoi on organise aussi ce type de webinaire. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va tâcher de répondre aux questions qui sont celles de ce webinaire avec Karine Garcherie. Donc bonjour Karine, vous êtes directrice de projet partenariat à la direction de la formation professionnelle et des compétences au sein de la Caisse des dépôts et des consignations. Peut-être avant d'évoquer d'éventuels chantiers en cours à venir sur justement ce co-abondement, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire comment aujourd'hui une entreprise ou une branche peut faire pour justement doter le compte CPF de ses salariés? Bienvenue et merci.
Bonjour à tous. Donc oui, merci pour cette question concrète. L'idée vraiment, c'est de vous dire, parce que bon, ça fait déjà un petit moment aujourd'hui que j'anime, que j'échange beaucoup avec notamment les entreprises, et j'ai souvent la question qui me remonte en me disant, mais le CPF, c'est compliqué pour nous, entreprises. Donc là, Je souhaite vraiment dire qu'il faut vraiment travailler sur ces idées reçues et vous dire que non, pour une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas difficile de cofinancer, d'abonder, de doter sur du CPF. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, chaque entreprise qui le souhaite peut disposer d'un portail qui lui est dédié. Ce portail s'appelle EDEF, c'est donc l'espace des employeurs et des financeurs. Et via ce portail, il va pouvoir tout simplement doter le compte d'un collaborateur. Comment? Il aura besoin de son nom, de son numéro de sécurité sociale et du montant de la dotation donc, qu'il souhaite faire. Donc, par rapport à ça, une fois que ces trois informations sont renseignées pour un collaborateur, bien sûr, si l'entreprise a plusieurs collaborateurs, elle va pouvoir télécharger directement un fichier Excel qu'elle va pouvoir importer via cet espace. Une fois que c'est fait, il suffit simplement d'effectuer le virement auprès de la Caisse des dépôts. Tout est détaillé sur le cheminement à faire. Et nous, Caisse des dépôts, on va tout simplement alimenter le compte du collaborateur. Une fois que c'est fait, le salarié de l'entreprise, va avoir un nouveau compteur avec la dotation d'entreprise et il va pouvoir aller sur mon compte formation et acheter la formation, soit qu'il souhaite, s'il n'y a pas eu d'échange entre vous et de co-construction possible, hein, on a effectivement encore des entreprises qui dotent tout simplement le compte d'un collaborateur, ou bien il va pouvoir choisir la formation sur laquelle vous vous êtes au préalable entendu. Donc là, c'est vraiment le service qui est ouvert depuis un certain temps maintenant et qui permet tout simplement à une entreprise de doter le compte d'un collaborateur. Donc à ce jour, je n'ai pas entendu une entreprise me dire que cet espace-là est difficile à utiliser. On a vraiment des retours très positifs qui nous disent que oui, c'est très facile d'utilisation. Oui, l'argent est très rapidement sur le compte du collaborateur qui peut acheter la formation. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment facile et fluide d'utilisation pour l'entreprise. Et puis à côté de ça, on a d'autres façons aussi, on propose d'autres manières pour les entreprises de cofinancer, de co-construire le CPF d'un collaborateur. Et ces autres façons, en fait, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment en fonction de votre besoin et aux besoins de l'entreprise. D'un côté, il y a la possibilité de doter un compte, mais vous avez aussi la possibilité de cofinancer directement une formation. Deux possibilités s'ouvrent à l'entreprise hein, aujourd'hui. Soit elle a un accord qui encadre la possibilité d'abonder du CPF. Dans ce cas-là, elle va pouvoir avancer les frais, choisir son organisme de formation, inscrire les salariés en formation et elle va pouvoir nous demander le remboursement de la part CPF d'un collaborateur. Donc ça encore, c'est un dispositif qui n'est pas suffisamment connu. C'est encadré par un article, hein, je l'ai noté, c'est l'article 6323-11 alinéa 5 qui permet à l'entreprise de venir nous voir et nous demander de conventionner dans ce cadre-là. Donc on a quelques entreprises, une poignée d'entreprises qui utilisent ce système et qu'on veut faire connaître. Ça fait partie des chantiers que l'on continue et qu'on va poursuivre. Et enfin, donc ça fait deux façons de cofinancer du CPF. Et enfin, vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes une entreprise, de travailler avec nous sur ce qu'on appelle de l'abonnement automatisé. Alors le thème est barbare, mais ce qu'il faut retenir, c'est si l'entreprise à un certain volume connaît très bien le public qu'elle veut soutenir, les formations qu'elle veut soutenir également et les prises en charge qu'elle souhaite mettre en place. Sur ces bases-là, on conventionne ensemble, entreprise, Caisse des dépôts, on injecte l'ensemble de ces critères sur mon compte formation, ce qui fait que le salarié, quand il va aller sur la plateforme, si toutefois il est éligible et qu'il choisit la formation éligible, il va voir directement que l'entreprise a cofinancé, souhaite cofinancer cette formation par son employeur. Pardon. Donc vous voyez, il y a trois possibilités aujourd'hui offertes à l'entreprise pour cofinancer du CPF. La première étant évidemment la plus simple puisqu'il n'y a pas de conventionnement avec la Caisse des dépôts.
Effectivement, dans les échanges qu'on a pu avoir à chaque fois, il y avait cette simplicité aussi de dotation qui était mise en valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vue d'ensemble, au moins une idée de la part des abondements d'entreprise justement dans la mobilisation du CPF?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai demandé hier des données actualisées, donc je peux partager avec vous aujourd'hui des données qui datent d'hier. Hein. Ce qu'on relève, c'est qu'aujourd'hui, la dotation représente 247 millions d'euros depuis que ça existe, hein, donc ça fait maintenant 3 ans. On se rend compte effectivement que finalement, l'entreprise est le plus gros contributeur. Pourquoi je me permets de dire ça? Alors, le plus gros contributeur par rapport aux autres acteurs avec lesquels nous conventionnons aujourd'hui. Alors, je me permets de vous le dire parce qu'on a Pôle emploi qui finance à hauteur de 217 millions d'euros, les OPCO et les régions à hauteur de 45 millions, et sur ces 45 millions, 30 millions sont ciblés, fléchés vers des salariés. Donc, vous voyez, la part entreprise en dotation reste importante puisqu'elle est à hauteur de 245 millions. Pour autant, si on met un peu de perspective par rapport à ces chiffres, je vais vous en donner d'autres. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts a pu financer près de 10 milliards d'euros de formation. Elle a engagé ce montant-là pour plus de... je cherche mes données pour ne pas vous dire de bêtises, pour plus de 6 millions de dossiers qui ont été acceptés. Donc effectivement, si on remet cette échelle-là, le cofinancement entreprise reste à construire. Il reste encore faible par rapport à ces montants assez astronomiques que je partage avec vous aujourd'hui.
Effectivement, on peut voir ici et là que ça progresse, même si encore une fois, ça peut aussi aller plus vite. C'est aussi l'objet de ce type de webinaire. On a parlé un petit peu justement des modalités de cofinancement. Est-ce que... Quels sont les chantiers actuels et même à venir de la Caisse des dépôts, aussi en partenariat avec nous évidemment, pour justement amplifier cette tendance, ce chiffre-là qui est certes important mais qui peut encore être amené à augmenter dans les prochaines années?
Alors il y a plusieurs chantiers que l'on mène. Ce que j'aurais pu également vous dire, c'est que sur la partie dotation, on se rend compte que 48% des entreprises sont des TPE-PME aujourd'hui qui dotent les comptes des collaborateurs. Les grandes entreprises représentent malgré tout 18%, donc ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que les grandes entreprises s'intéressent aussi à ce dispositif. Et donc, on doit continuer et amplifier le dialogue, les échanges que l'on mène avec l'ensemble du tissu économique français. Donc, pour ce faire, on mène un certain nombre d'actions. Alors, tout d'abord, le portail que je vous ai présenté tout à l'heure, donc l'espace des employeurs et des financeurs qui permet à chaque entreprise de doter le compte d'un collaborateur, va évoluer. On y travaille actuellement parce qu'effectivement, par rapport au retour terrain et le retour qu'on peut avoir, notamment du MEDEF, on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quand une entreprise dote un compte, elle ne cofinance pas directement l'action de formation. Et ça a pour conséquence que si toutefois le salarié souhaite faire une autre formation, il va pouvoir effectivement, avec les fonds de l'entreprise, s'orienter vers une autre formation. Donc ça, c'est vraiment un écueil que l'on a pu constater. Et donc, nous allons mettre en place des développements. Un, pour que l'entreprise puisse, lorsqu'il fait sa dotation, indiquer la formation qu'il souhaite que son collaborateur suive. Dans un deuxième temps de développement, l'employeur va pouvoir être notifié du départ du salarié en formation pour voir la formation qu'il a suivie. Et dans un troisième temps, il va pouvoir avoir accès directement sur cet espace, l'espace EDEF, à l'ensemble des informations. Et si toutefois le salarié n'a pas suivi la bonne formation, il pourra demander le remboursement à la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est vraiment important que je le partage avec vous aujourd'hui pour vous dire que, en termes de développement, voilà ce qui est prévu pour renforcer le service. Pour autant, on doit continuer, dans le cadre de nos partenariats, à effectuer des séances d'information, de sensibilisation auprès des entreprises. Donc ça, c'est ce qu'on va continuer notamment avec vous. On passe aussi des conventions financières pour obtenir des abondements complémentaires et travailler davantage avec les branches professionnelles, les OPCO, les FAF et les conseils régionaux. Donc là, on a un certain nombre de branches d'OPCO en ce moment et de régions qui souhaitent conventionner avec nous. Aujourd'hui, on a, me semble-t-il, je regarde mes fiches, 6 OPCO et 7 branches qui ont passé convention, notamment à Atlas. Et puis, on a également pas mal de régions. Alors souvent, leur périmètre, c'est plutôt les demandeurs d'emploi. Pour autant, ils appuient, ils soutiennent également des salariés. Donc ça aussi, c'est un chantier que l'on mène actuellement. Et puis, on va relancer une campagne d'ateliers de façon à pouvoir obtenir et recueillir l'avis des entreprises notamment pour savoir si les futurs développements vont dans le bon sens, pour présenter aussi ce qu'on est en train de faire et pourquoi pas aussi recueillir les besoins pour affiner les futurs développements que nous pourrions être amenés à faire.
Merci beaucoup Karine. Effectivement, dans les retours d'expérience, les entreprises nous font part justement de cette simplicité d'utilisation pour la dotation, mais pour autant ne pas avoir de visibilité ensuite sur comment ces fonds qui ont été investis par l'entreprise ont été effectivement dépensés, notamment l'entrée et la sortie en formation des salariés. Donc c'est évidemment des ateliers nous de travail qu'on suivra avec attention avec vous dans le cadre de notre partenariat. Avant de passer au prochain témoignage, on a une question dans le chat relative aux abondements entre guillemets sanctions. Est-ce qu'il y a un fléchage de ces abondements en lien avec les entretiens bilan professionnel non respectés en la matière ?
Alors effectivement, parmi les dotations, il y a la dotation volontaire, c'est celle que je vous ai présentée, qui permet donc à l'entreprise de pouvoir co-construire sur un projet de formation avec un salarié, mais il y a aussi les dotations dites correctives. Donc ce sont des dotations qu'on commence à recevoir depuis un an environ, puisqu'on arrive au fait qu'il y a l'entreprise qui a une obligation de réaliser un bilan à 6 ans, et si ce n'est pas fait, elle doit verser via ce portail 3 000 euros par collaborateur. Donc là, on commence à avoir des volumes qui sont assez conséquents, surtout souvent des grandes entreprises. Et dans ce cadre-là, ce qu'on remarque forcément, c'est que souvent, ce ne sont pas des sommes qui sont utilisées ensuite directement par le collaborateur, par le collaborateur, alors que les dotations dites volontaires sont souvent utilisées dans la foulée, pour l'achat d'une formation par un salarié.
D'accord. Parce qu'effectivement, la dotation, du coup, s'inscrirait peut-être plus dans un parcours, un projet qui aurait été construit. En tout cas, c'est le témoignage qu'on aura en fin de webinaire aussi, alors que ces amendements correctifs, pas forcément, du coup. Okay. Bon, merci beaucoup, Karine, pour ces précisions et sur ces axes de travail. On vous propose maintenant de revenir sur une pratique que vous avez commencé à évoquer, une modalité de cofinancement qui est le co-abondement automatisé. Jessica González-Gris, bonjour. Vous êtes déléguée emploi formation à la Fédération Syntec. C'est une des organisations patronales de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénierie conseil et des sociétés de conseil. Vous représentez à ce titre les groupes et sociétés spécialisées dans les professions du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événement et de la formation professionnelle. Si c'est tout bon, bienvenue, merci d'intervenir. Alors, on vous a demandé de témoigner aujourd'hui parce que votre fédération est investie sur ce sujet-là déjà depuis plusieurs années. Vous avez signé des conventions de partenariat avec la Caisse des dépôts et votre OPCO, donc Atlas, déjà il y a quelques années. Et cet été, vous avez signé une nouvelle convention. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire la genèse de ça, l'objectif et du coup, cette nouvelle convention qui date il y a quelques mois?
Alors, merci, bonjour à tous et toutes. Alors, effectivement, nous, ce cofinancement CPF, il s'est complètement inscrit dans notre accord qu'on a signé à l'unanimité en 2019, donc c'était notre accord formation. Et on a tout de suite vu, via la réforme 2018, qu'en effet, sur le CPF, on allait être amené à travailler avec d'autres interlocuteurs, et notamment la Caisse des dépôts, et pour voir comment on pouvait rendre le dispositif le plus accessible possible, puisqu'initialement, c'était quand même tout nouveau et pas forcément évident de soi. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment faciliter l'accès à la formation, et donc notre branche, alors avec les partenaires sociaux, parce que c'est vraiment un dialogue qu'on a eu tout au long de notre accord, mais qui relevait historiquement aussi de nos actions et de la construction de notre politique formation. On s'est d'abord concentré pour favoriser plutôt les certifications de branche, donc les CQP de la branche, on en a 8, et on voulait déjà connaître éventuellement si techniquement c'était possible, et donc on s'est rapproché naturellement de la Caisse des dépôts qui s'était présentée et pour lequel il nous avait indiqué qu'il y avait un partenariat branche, donc on était ravis d'avoir un interlocuteur, et donc notamment Karine, pour pouvoir parler ensemble de comment on pourrait simplifier cette mise en œuvre. Donc on l'a mis en place, et ce qu'on s'est dit dans l'accord très vite, c'était on avait bien conscience qu'on était sur un périmètre de certification assez restreint, de branches. On ne savait pas si ça allait évoluer ou pas, mais potentiellement, on s'était dit que si c'était le cas, il fallait prévoir aussi le fait de pouvoir aménager cette liste, de la faire évoluer dans le temps. Donc, c'est ce qu'on a aussi prévu dans notre accord. C'est une révision, en tout cas, possible via donc, la CPNEFP. On ne peut pas repasser via l'accord, enfin, des choses assez lourdes en termes d'extension ou autre. Et donc, c'est la CPNEFP et donc les partenaires sociaux dans leur globalité qui sont concernés à chaque fois.
Ok. Donc, l'objectif de votre partenariat, c'est effectivement de participer au financement de la formation des salariés de votre champ, donc favoriser aussi l'accès à la formation de ces salariés. Concrètement, donc vous avez évoqué le fait que la première convention portait sur les 8 CQP. Oui. Là, cette nouvelle convention, du coup, a vocation à élargir le champ des certifications éligibles justement à cet abondement automatisé.
Alors, on commençait tout juste en 2019. Le temps que ça se mette en place, c'est l'accord en 2019. On a fait une convention après, dans la foulée, quelques mois après. On a fait de la communication évidente, mais bon, force est de constater que les engagements n'étaient pas très encourageants. Donc on s'est dit, zut, soit on a en effet visé peut-être des certifications trop restreintes. Nos CQP sont connus, mais c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément à des populations qui sont déjà dans la branche, ou alors avec des projets de reconversion et autres, et on n'en a pas tant que ça finalement. Qui utilise les CQP pour. Et donc, on s'est plutôt posé la question de comment on pouvait élargir cette liste. Donc là, encore une fois, on s'est appuyé de l'OPCO, donc Atlas, des partenaires sociaux avec leur spécificité ou leur expertise qu'ils ont plutôt dans la branche, pour se dire comment on pourrait élargir. Alors, il y avait aussi ce partenariat qui était mis en place avec le MEDEF et la Caisse des dépôts, où j'ai pu participer à avoir aussi des fiches peuvent accompagner les branches dans leur réflexion sur la mise en place d'un cofinancement CPF. Et c'est vrai qu'au travers de ces fiches, ce qui était intéressant, c'est de voir branche par branche ce qui se faisait dans le cadre normal du CPF, d'utilisation via les salariés. Donc, on les a pris avec nous, on les a partagés avec les partenaires sociaux et on s'est dit, si déjà on écartait le top 5, qui était le plus utilisé, sur le CPF de façon commun, pour avoir un vrai positionnement branche, ça pourrait déjà être intéressant. Alors on l'écarte parce que c'est en termes de volumétrie. Sur la branche, on aurait été amené à faire un cofinancement de la branche, donc sur nos fonds conventionnels assez importants. Alors on voulait vraiment impulser la démarche, mais on ne voulait pas non plus que ça explose en plein vol. Donc on a écarté ce top 5 vraiment parce que derrière on avait des volumétries qui étaient assez importantes. Et on s'est concentré sur d'autres certifications, donc en discussion avec les partenaires sociaux, beaucoup plus métiers et plutôt au niveau de notre secteur. Donc c'est ce qu'on a fait. On a à peu près, alors ça peut paraître comme ça énorme, mais il y a 60% en gros du répertoire spécifique, 40% du RNCP. Mais en attendant, on est aussi sur des métiers très divers. Vous avez cité le champ de la convention, donc voilà, on peut le voir. On passe de l'événementiel à du numérique, à de l'ingénierie. Donc c'est vrai que c'est assez large. Mais en attendant, ça marche tout de suite beaucoup mieux. On voit tout de suite le répondant, puisque là, en quelques mois, on a commencé, je crois que c'était en juin ou en juillet, quelque chose comme ça, cet été, le temps de communiquer, et puis presque pas le temps de communiquer, parce que c'est visible tout de suite pour le collège, enfin pour le côté salarié. Ils peuvent voir comme ça les abondements et les compléments de financement qui peuvent être intéressants. Et du coup, on est déjà à 700 000 euros. D'engagement, là on était à même pas 14 000 euros d'engagement pour l'année complète sur la précédente convention, donc de 2021. Celle de cet été là, 2023, est beaucoup plus encourageante et on se dit qu'on a peut-être visé des certifications un peu plus qui répondent un peu plus à des besoins au niveau de notre secteur.
Effectivement, de passer de 14 000 à 700 000, c'est un vrai gap. Donc, en éliminant aussi le top 5, vous avez aussi recentré sur des formations aussi un peu plus métiers. Et c'est tout l'enjeu, je pense, aussi demain des entreprises et des branches d'arriver à faire ça. Vous avez évoqué du coup cette offre qui est du coup beaucoup plus large, mais aussi contrôlée parce que mise à jour régulièrement, vous le disiez, par les instances paritaires de la branche. Concrètement, sur la prise en charge, comment abonde la branche via l'OPCO Atlas notamment?
Alors, nous, on a une contribution conventionnelle, il faut peut-être aussi le rappeler, qui nous donne en tout cas au niveau de notre politique branche vraiment un outil pour aller viser ou en tout cas cibler notre volonté de développement de compétences et notre volonté politique en tout cas de les exprimer. Donc on a d'abord pour l'instant, alors, on avait bien l'idée hein, que ça allait prendre, mais du coup on a voulu tout de suite mettre un financement qui pouvait après être repris l'année suivante. On n'a pas voulu le faire au prorata, on l'a fait en juin, on n'a pas voulu se cantonner juste à 6 mois. On s'est dit que potentiellement, annuellement, ça pouvait représenter 2 000 euros de besoins couverts, 2 millions pardon, d'euros couverts par la branche, 2 millions. Et du coup, ça reviendrait à venir, alors par rapport à la première convention, on avait un financement 100% du restant à charge, parce qu'on était sur nos CQP, 8 certifications, quand même beaucoup plus limitées. Là, on est sur des certifications plus diverses et on part sur 4 000 euros d'abondement. Un abondement limité à 4 000 euros pardon, par salarié. Donc, du coup, on limite comme ça. On n'est plus sur du 100% prise en charge sur le restant de charge.
Sachant que les deux conventions coexistent, oui. C'est-à-dire que les salariés de la branche, s'ils veulent se former sur un des CQP, ils n'ont toujours aucun plafond. Par contre, si c'est sur le reste, c'est 4 000 euros de plafond.
Les deux conventions cohabitent.
Et concrètement, de manière assez opérationnelle, du côté utilisateur, mais là, je me tourne peut-être plus vers Karine. Demain, je suis un salarié, effectivement, de cette branche. Je souhaite suivre une de ces nouvelles formations, enfin, certification ciblée. Je vais sur mon compte CPF, je choisis ma formation, mes droits sont automatiquement mobilisés. Et ensuite, le reste à charge est automatiquement aussi pris en charge dans la limite de 4 000 euros. Il n'y a rien à faire, c'est incrémenté directement.
Il y a un à faire. En fait, c'est un parcours. C'est une fois que j'ai choisi la formation, au moment de l'ingénierie, je vois une ingénierie financière directe avec mes droits, les autres cofinancements dont je peux bénéficier. Et puis, si besoin, un reste à charge où je peux compléter avec ma carte bleue si on est sur des plafonds. Donc, je n'ai vraiment rien à faire. Et c'est en transparence, c'est-à-dire que l'usager, le salarié, voit qui finance.
Ouais. D'accord.
Qui finance la formation.
C'est à la fois transparent et rapide et du coup automatique. Donc, ça, c'est quand même un vrai plus. Jessica, vous avez mentionné du coup une enveloppe de 2 millions d'euros issue de ces fonds conventionnels. C'est votre OPCO qui verse à la caisse. Sur le circuit financier, peut-être quelques précisions. Quelles sont les différentes étapes et peut-être les garde-fous aussi, les alertes que vous avez mises en place tout au long justement de ce financement ?
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est important qu'on surveille comment cette dotation est utilisée et surtout à quelle vitesse, en tout cas, elle est engagée. Sur la première convention, on était très attentifs et impatients de voir les chiffres. Bon, force est de constater que les chiffres ne se sont pas envolés. Donc, cette fois-ci, pareil, on attendait de voir. Donc, ça marche, ça s'envole. On a des engagements assez intéressants. Mais du coup, c'est un peu aussi la pratique des partenaires sociaux sur les budgets des branches. On a plutôt, et même si on le fait en direct avec notre OPCO, là, on le fait du coup avec la Caisse des dépôts, c'est de regarder que les fonds qu'on a alloués ne s'évaporent pas trop vite. Et donc, il y a une avance. On procède quand même là par avance, puisque la Caisse des dépôts n'a pas les fonds au préalable par rapport à notre OPCO anciennement et même maintenant avec les dotations. Du coup, là, on procède de la même façon. C'est une dotation à la Caisse des dépôts que l'OPCO fait. Donc là, on est sur du 50%. Parce que vu le nombre de certifications, on s'est dit quand même que milieu d'année, ça allait déjà être à peu près sur ces montants-là. Donc, on est sur une avance de fonds. Et puis, bien sûr, après, il y a aussi côté Caisse des dépôts avec laquelle on se met d'accord sur une fois qu'on atteint 80%, par exemple, ou de la dotation perçue ou de l'enveloppe totale, de nous alerter, de commencer à nous dire bah, attention, là, vous êtes à un niveau 80% d'engagement ou juste du premier versement à 50%. Donc ça, c'est vraiment à définir ensemble pour que derrière, bah, les partenaires sociaux aient le temps aussi de se dire bah, est-ce qu'on arrête là, est-ce qu'on laisse l'enveloppe statu quo telle que décidée, ou alors en effet, il y a de la demande, il y a des besoins et potentiellement, il y a des fonds disponibles selon l'année pour réinjecter ou pas. Mais ça nous donne comme ça une possibilité de réagir.
D'accord.
Et la Caisse des dépôts, nous transmet, alors c'est pas que des flux financiers, ce qui est intéressant aussi par la branche, c'est de savoir vraiment parmi les certifications qui sont éligibles, lesquelles attirent davantage, quel type de population aussi, c'est intéressant de savoir pour nous, c'est quels collaborateurs qui sont attirés, donc on a une restitution des données en début de mois, mais là aussi, c'est des choses à convenir. Nous, on le fait en début de mois, mais ça peut être une échéance autre. Pour voir ou réorienter éventuellement, se dire, là, il y a des certifications qui ne répondent à aucun besoin, on ne va pas les laisser, on les retire. Donc, autre calendrier, c'est aussi la révision des certifications, on en a parlé tout à l'heure, nous, on l'a faite. Là, on se dit que c'est pratiquement tous les trimestres qu'il faut qu'on se réinterroge, notamment parce qu'il y a aussi des certifications qui arrivent à échéance. Et donc, on a eu un peu la pratique avec la ProA. Entre notre accord de 2019 et lorsqu'il a été étendu, on a eu 30% d'inactivité sur les certifications. Donc sur le CPF, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, des formations plus ponctuelles. Et donc là aussi, il faut s'attacher à ce que ce soit actif et que nos abondements viennent vraiment répondre à des besoins qui sont possibles et dans l'offre de formation existante.
Ouais. D'accord, donc plusieurs reportings à la fois sur le taux de consommation de l'enveloppe globale qui est faite régulièrement avec des alertes, mais aussi c'est assez intéressant du coup des reportings sur le type de formation suivie, etc. Ouais. Qui vient du coup aussi compléter ce que je mentionnais au départ sur les fiches effectivement sectorielles. On a hâte de lire la fiche du Syntec pour
oui, la nouvelle,
pour cette année, effectivement, voir l'impact typiquement de cette politique dans les chiffres. Justement, là-dessus, et pour en finir, est-ce que vous avez déjà des éléments un peu sur la suite à donner à cette convention, et notamment, on vient de le mentionner aussi, mais constater l'impact, parce que c'est une difficulté aussi de mesurer l'impact d'une telle mesure sur à la fois l'accès à la formation, est-ce qu'il est amplifié ou pas, et surtout sur la typologie des formations suivies par le public concerné.
Alors là, on l'a mis cet été, là on est en novembre, je ne pense pas qu'on ait vraiment, soit rentré dans une cadence des données répétées, mais oui, on a déjà le volume engagé, c'est ce que je disais, on a le nombre de dossiers, on va très certainement avoir là sous peu un descriptif peut-être un petit peu plus détaillé sur qui se dirige vers les certifications. L'actualité, ça va être bien sûr de reconduire, et certainement, alors soit avec cette même dotation, soit vu le temps déjà, imparti peut-être de la revoir à la hausse, mais c'est en tout cas d'accompagner ce mouvement et surtout pas de le casser. Après, c'est l'actualité plutôt sur le restant à charge, la participation, qui va nous, là, le ticket modérateur qui va là nous mobiliser, parce que Karine le disait, c'est transparent et c'est fluide, mais il faudrait que ça le reste. Sitôt qu'on introduit le biais ticket modérateur, c'est comment tout d'un coup on arrive dans l'enchaînement des formations, où ce qu'on voulait, c'était apporter une réponse très facilitante pour le salarié. C'est-à-dire qu'un financeur en plus ne vienne pas enrayer ce que le CPF connaissait déjà comme développement. Donc là, c'est la même chose, on espère, et c'est ce qu'il dit, que ça doit être très simple, etc. Donc on va être assez vigilant, on va le regarder, on va voir notamment avec les fiches s'il y a des cassures, s'il y a en effet une rupture aussi dans l'engagement qui pourront ou nous permettre, nous, d'aller demander à ce que l'allure ne soit pas freinée avec ce ticket modérateur, parce que ce serait visible. Ça nous permettra de voir un petit peu et de savoir là où on peut argumenter les choses.
Au-delà effectivement du principe même du ticket modérateur, maintenant ce qui est important aussi, c'est de savoir comment il va être mis en œuvre, parce qu'il y a déjà des cas d'exonération, des restes à charge en cas de co-abondement entreprise, etc. Donc voir comment ça s'inscrit justement dans ce process-là. Donc effectivement, ça sera intéressant de le suivre. Merci beaucoup Jessica. Et on va passer à la dernière partie du coup du webinaire avec une intervention à distance. Alors a priori, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser dans le chat. Caroline Guyon, bonjour, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien, et vous ?
Oui, parfait, on vous voit, on vous entend. Merci beaucoup Super. D'intervenir à distance. Vous êtes responsable développement RH chez Damar. Vous avez accepté d'intervenir aujourd'hui justement pour témoigner de votre pratique effectivement de co-abondement CPF dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter en quelques mots votre entreprise, même si je pense que la majorité des gens connaît Damar, mais voilà, en quelques mots, et puis surtout, bien sûr, de préciser un peu cette politique, ces pratiques de co-abondement que vous avez mis en place déjà depuis plusieurs années, de ce que j'ai compris.
Ok, très bien. Alors, si je dois présenter Damar en quelques mots, entreprise de prêt-à-porter, spécialisée dans les vêtements thermorégulants, qu'on connaît bien sous le nom de thermolactile. Damar, c'est 1200 collaborateurs en France, c'est deux sièges sociaux sur le nord de la France, et c'est une centaine de magasins en France. Et si je dois mettre le chapeau un peu macro, c'est le groupe Damartex, qui est sur 9 pays et qui comporte 9 marques, dont Damar. Voilà dans les grandes lignes pour une présentation un peu large. Sinon, pour nous, l'abondement CPF, donc nous, c'est quelque chose en tout cas, le cofinancement qu'on réalise depuis un certain nombre d'années maintenant. En fait, dès qu'il a été possible de cofinancer des actions de formation, on l'a fait tout de suite. Donc, on l'a fait aussi bien avant la mise en place de cette plateforme. On le faisait donc à l'époque avec les OCO qui étaient même des experts, donc avec les OPCA via des conventions tripartites. Voilà, dès le début, on a pu aider nos collaborateurs et les aider à faire des formations. Bruit qui parasite, je ne sais pas si c'est chez vous.
Les micros sont donc coupés normalement.
Bon, mais écoutez, ça a l'air d'être bon. Donc aujourd'hui, on réalise quelques cofinancements dans l'année. Souvent, hein, c'est à l'initiative des collaborateurs. Hein. Bien souvent, c'est le collaborateur qui en demande. L'idée, c'est souvent dans le but d'une montée de compétences, d'une évolution sur son métier ou d'une évolution future, probable, du métier. On n'a pas de règles spécifiques, c'est-à-dire qu'on se dit pas nous on accepte dans tel domaine ou on refuse dans tel domaine. Nous c'est vraiment à l'opportunité, c'est on analyse le besoin et on se dit ok, est-ce qu'on est dans une politique de win-win, est-ce que il y a un intérêt commun pour l'entreprise et pour le collaborateur de se former sur cette thématique pour demain ou même pour aujourd'hui. Et dans ce cas-là, le collaborateur mobilise son CPF. Nous, on abonde du montant du différentiel. On abonde de la totalité du différentiel, c'est-à-dire que je peux être amenée à abonder 400 euros comme 5000 euros, peu importe le montant. Là, le sujet, c'est la nature de la formation qui est importante. Et donc concrètement, c'est un point entre nous, RH, manager et collaborateur, sur voilà, l'intérêt de la formation, la motivation du collaborateur. Et si voilà, tous les critères sont réunis, nous, on réalise l'abondement et le collaborateur ensuite fait les démarches sur son compte.
D'accord, donc c'est bien une initiative individuelle du salarié, oui, qui a déjà un projet de formation et qui vient vous voir pour que vous le cofinanciez, parce qu'aussi ça s'inscrit du coup dans le cadre de ses compétences, en tout cas du développement de ses compétences sur son poste de travail.
Donc là, on est et ça peut être aussi pour demain, c'est-à-dire qu'on regarde pas que à aujourd'hui, c'est aussi dans une démarche aussi GPEC, hein, de se dire ben voilà, les métiers sont amenés à évoluer, on le sait bien, et donc pourquoi pas. Et également, nous, c'est toujours sur le temps de travail. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un cofinancement important, puisqu'il y a cofinancement, enfin, il y a financement de la formation, plus financement sur du temps de travail. Donc, c'est-à-dire que le collaborateur voilà, fait ça pendant son temps de travail et pas son temps personnel.
D'accord, ouais, donc c'est un véritable investissement effectivement de l'entreprise. Ouais. Vous avez mentionné justement la GPEC. Comment cette pratique, cette politique de dotation s'inscrit par rapport au plan de développement des compétences ? Est-ce que ça s'y substitue ? Est-ce que ça complète ? Et du coup, quel impact aussi ça peut avoir en termes financiers, en dépenses de formation aussi pour votre entreprise ?
Alors, nous, c'est vraiment en complément, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas un quota, je ne me dis pas, voilà, tel collaborateur, il a fait cette formation avec abondement CPF, et donc, en gros, il ne peut plus faire de formation sur le PDC pendant un an ou deux ans. Maintenant, c'est plutôt du bon sens, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui a pu bénéficier d'un parcours de formation via abondement, en général, il n'est pas forcément tout de suite demandeur d'autres formations parce que bah, déjà le parcours le mobilise, lui prend du temps. Donc en général, il n'y a pas beaucoup d'autres demandes. Par contre, ça arrive qu'il y ait d'autres demandes parce que forcément, bah, il y a des besoins collectifs pour l'équipe, il y a des besoins sur des outils autres. Et dans ce cas-là, bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. On ne se dit pas, bah non, c'est tout, le quota a été utilisé. Donc, l'impact côté financier, forcément, bah, c'est à moi de le gérer. C'est à moi d'être vigilante et de connaître les besoins de formation de nos collaborateurs, de savoir ce qui a été réalisé. C'est vraiment une connaissance individuelle de nos collaborateurs. Et du coup, voilà, d'être vigilante sur où on en est dans la dépense de nos formations sur le PDC. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire? Et voilà, après, c'est une question de gestion et pour l'instant, ça se passe bien, en tout cas depuis plusieurs années. On n'a pas de problème à ce niveau-là.
D'accord. Je vois juste une question qui apparaît là à l'instant sur le chat. Le complément de financement fait-il l'objet d'une convention de formation avec l'organisme ou les fonds sont-ils versés sur le compte CPF?
Non, alors bah, du coup, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans les points entre guillemets un peu négatifs, on va dire, c'est que à partir du moment où on verse de l'argent sur le compte CPF, l'entreprise n'a plus aucune visibilité sur ce montant. Le collaborateur s'inscrit à la formation via le compte CPF et donc il n'y a pas de convention signée avec l'entreprise. C'est vraiment entre le collaborateur et l'organisme.
D'accord. Et concrètement, parce qu'on a parlé un peu du côté utilisateur tout à l'heure, ça c'est effectivement des pistes d'amélioration qu'on a déjà évoquées avec Karine au début, mais pour une entreprise, du coup, concrètement, comment ça se passe pour doter? Vous avez votre salarié qui vient vous voir, vous validez le plan de formation, le coût que ça va aussi engendrer vis-à-vis d'une formation bien précise. Vous, après, derrière, c'est facile d'accès, c'est automatique, ça demande un certain délai ou c'est, enfin, en tout cas, de ce que nous, on a pu
Alors,
entendre, assez facile.
oui, l'action en elle-même est hyper simple. J'étais moi-même étonnée la première fois que j'ai voulu en faire une de dotation parce que je m'attendais un portail un petit peu lourd comme on pouvait l'avoir avec les débuts du CPF où c'était assez compliqué pour trouver une formation, pour s'inscrire, etc. Honnêtement, là, voilà, une fois qu'on est sur le portail entreprise CPF, il nous faut le numéro de sécu du collaborateur, son nom de jeune fille, enfin s'il y a, le montant de la dotation et on valide. Et ça prend 3 minutes. Après, on reçoit un appel de fonds qu'on transmet en comptabilité et la compta après fait le versement donc auprès de la caisse de dépôt. Et la caisse de dépôt ensuite fait le virement sur le compte du collaborateur, enfin le compte CPF évidemment. Ça peut prendre par contre quelques semaines. Donc il faut anticiper un petit peu. Il faut pas que la formation commence 2 semaines après.
D'accord, ouais, effectivement. Ok, donc
Et ce qui est
effectivement.
pratique aussi, c'est qu'on peut faire aussi des abondements, ce qu'ils appellent, je crois, des abondements en masse. C'est-à-dire, on peut venir incrémenter un fichier avec la liste de collaborateurs et la liste des montants à abonder. Ça, c'est plutôt dans le cadre des abondements correctifs liés au non-respect du bilan à 6 ans. Nous, enfin, forcément, on passe aussi par là pour faire les abondements correctifs. Et ça peut être plus facile de faire quand il y en a 10, 15, 30 à faire, plutôt que de taper un par un, de venir charger un fichier source.
D'accord. Donc effectivement, à partir du moment où votre entreprise elle est inscrite sur ce portail EDF, c'est trois données à avoir sur le salarié en question.
C'est ça.
Ça vous prend 3 minutes et la dotation elle est ensuite accessible pour le salarié assez rapidement. Ok, donc c'est effectivement très simple. Sur les peut-être pistes, on l'a évoqué d'amélioration, parce que la simplicité elle est là. Par contre, il n'y a pas de suivi. Avoir un suivi sur ces formations, ça vous paraît effectivement un vrai plus? Est-ce que vous voyez éventuellement d'autres pistes?
Alors, c'est vrai que ce suivi-là, je pense que vous en avez parlé juste avant, et j'ai pas suivi au début. Oui, le suivi, ça serait vraiment un gros plus, parce que comme je vous disais, une fois qu'on a mis ce financement, nous, on n'a plus de suivi. Alors, on peut, parfois, quand on connaît l'organisme et qu'on a des contacts, demander avoir un suivi. Et après, on peut le faire aussi via le collaborateur, hein, qui peut nous donner aussi du feedback sur la formation et voilà, nous montrer s'il suit bien la formation. Ça, c'est vrai que ça serait bien que l'entreprise puisse avoir cet œil sur la réalisation de la formation. Et un autre point aussi, ça, je ne sais pas techniquement comment ça serait faisable, mais en fait, nous, quand on vient faire l'abondement, on met par exemple 2000 euros, ça part sur le compte du CPF du collaborateur. Derrière, nous, on n'a plus aucune vue. C'est-à-dire que le collaborateur peut décider après de ne plus l'utiliser du tout et donc le garder, faire des confitures, ou l'utiliser pour une autre formation de son choix qui n'aurait pas été validée avec nous. Alors évidemment, il n'y a pas d'intérêt à le faire, en tout cas pour la bonne entente dans l'entreprise et comme souvent c'est dans le cadre d'une évolution ou d'un changement de poste. Mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui dit finalement, ça ne m'intéresse plus, les 2000 euros, ils vont rester sur le compte. Nous, on n'a plus possibilité de les reprendre. Du coup, je me disais, est-ce que ce serait faisable que nous, quand on vient abonder ces 2000 euros, par exemple, on puisse, entre guillemets, les réserver pour une formation bien précise, de dire, je les mets sur le compte de un tel pour telle formation. Je ne sais pas si c'est possible, c'est une idée comme ça, mais en tout cas, ça serait pour verrouiller un peu le fait que le collaborateur, il utilise bien le montant, l'argent qu'on lui a donné pour la formation qui était vue ensemble.
Je crois que ça fait effectivement partie des pistes d'amélioration sur le parcours utilisateur de l'entreprise que de dire, OK, on abonde, mais potentiellement cibler une formation et aussi ouais. Avoir... d'autres données effectivement d'entrée de sortie en formation pour qu'il y ait plus de visibilité de transparence donc ça effectivement je crois que ça
oui c'est prévu pour fin 2024
super.
Où l'entreprise pourra même demander le remboursement de la dotation si le salarié n'a pas fait la bonne formation donc ça c'est des développements un peu plus tard mais en tout cas la première phase va démarrer en 2024.
Ok, ah, c'est bon à savoir.
C'est pour l'info.
Sur la question précédente, un élément juste d'explication de Madame Pirouet qui dit qu'il lui semble qu'il est toujours possible de coupler un abondement CPF et une convention de formation avec l'organisme de formation et ainsi avoir le suivi. Je me souviens qu'on évoquait le fait qu'avant que vous abondiez comme ça via le CPF, c'était oui. Effectivement des conventions avec l'OF et le salarié ouais. Tripartite qui du coup assurait effectivement un suivi mais qui perdait en simplicité ce qu'on vient d'évoquer. Donc avoir un peu
disons que là c'était beaucoup plus lourd parce que là on repassait sur une formation classique avec convention, programme, lien avec le co, etc.
Alors effectivement normalement il n'y a plus de convention qui circule entre l'organisme de formation, le salarié et l'entreprise, tout passe par la plateforme. Chacun signe les CGU, enfin valide les CGU oui. Quand on rentre sur la plateforme, aussi bien le salarié, l'usager que l'entreprise et l'organisme de formation, donc ça vaut convention en fait. Donc il n'y a plus ces conventions. Donc ça c'est important de le signaler effectivement.
D'accord.
Ouais. Et c'est vrai qu'avant du coup nous on valorisait ces actions quand on était en tripartite, on les valorisait dans notre plan de formation parce qu'il y avait cofinancement et il y avait l'entreprise qui était dans la convention. Maintenant on le fait plus du tout parce que c'est le collaborateur qui fait ça de son côté.
D'accord. Ok. Une dernière question, peut-être juste sur toujours cette capacité à mesurer l'impact d'une pratique comme ça de votre entreprise, de ces dotations. Est-ce que vous avez pu un peu le mesurer, ça, en termes de satisfaction, de fidélisation, plus largement d'accès à la formation? On sent que c'est difficilement palpable, mais vous, est-ce que vous avez des premiers éléments de retour?
Alors, en effet, c'est difficilement palpable et on n'a pas vraiment de data là-dessus. Enfin, en tout cas, on ne la suit pas. Par contre, je sais que nos collaborateurs, en tout cas, sont souvent très étonnés de se dire « Ah, ok, donc vous allez financer à hauteur de 2000, 3000 euros pour ma formation ?» Donc, il y a vraiment, du coup, un investissement naturel qui se fait du côté du collaborateur. Une reconnaissance, en fait, de se dire « Ok, ma boîte mise de l'argent sur moi. » Sur mon développement pro. Donc, il y a vraiment une fidélisation ici qui se fait comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, nous, on met toujours un accent sur l'accompagnement et le développement de nos collaborateurs. Et l'abondement CPF, ça en fait partie. Et pour nous, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que le collaborateur investit aussi une partie puisqu'il met son CPF sur la table. Et donc, ça nous permet de se dire, ok, les deux donnent de chaque côté. Donc, il y a toujours un investissement. En tout cas, on a eu aujourd'hui aucun arrêt de formation sur des formations cofinancées. Toutes les formations sont allées au bout. Elles ont débouché sur ce qui était prévu en termes de postes ou d'évolution. Des collaborateurs qui sont très, très contents et très reconnaissants qu'on mette l'accent sur le développement professionnel.
Mais le fait qu'effectivement ce soit aussi une initiative individuelle qui soit aussi le fruit d'une réflexion et de la construction d'un parcours en amont permet cet investissement que vous évoquez avec forcément un retour gagnant à l'issue de celui-là. Merci beaucoup Caroline pour ce témoignage.
Il n'y a de rien.
On a quelques questions juste dans le chat, peut-être une pour vous Karim. Quid de la possibilité pour l'entreprise de se faire rembourser la part CPF par la caisse après signature d'un accord d'entreprise?
Alors oui, dans les différentes possibilités, je vous ai présenté aussi le remboursement sur accord co, c'est comme ça qu'on le présente, qui permet à une entreprise qui a un accord, parce qu'il faut avoir un accord, hein, c'est vraiment une possibilité qui est encadrée par la loi, de pouvoir se rapprocher de la Caisse des dépôts, se faire connaître. Alors, pour être beaucoup plus concret, en fait, il y a des échanges qui se font pour savoir si les organismes de formation sont bien éligibles au CPF, ça c'est important. On vérifie aussi si le salarié a bien donné son accord, parce que ça fait partie des obligations que le collaborateur doit accepter d'utiliser son CPF dans ce cadre-là. Donc on vérifie un certain nombre de choses. Et quand tout est bien clair pour les deux parties, il y a signature d'une convention avec la Caisse des dépôts, qui permet effectivement à l'entreprise de choisir son organisme de formation, dans le cadre que j'ai bien précisé, de faire partir ses collaborateurs en formation, et ensuite de demander à la Caisse des dépôts le remboursement de la part CPF des collaborateurs en question. Donc ça, c'est peu connu. On a un certain nombre d'entreprises qui l'utilisent. Je pense notamment à Schneider Electric qui a commencé avec nous. C'est notre première entreprise qui a fonctionné ainsi. Et ça marche plutôt bien. Maintenant, c'est plus long, évidemment, qu'une simple dotation ce EDF, hein, ça c'est certain, puisqu'il y a toute une démarche en amont à faire. Mais là encore, ça répond à un besoin précis de l'entreprise. Là, Schneider Electric, pour parler de cette entreprise-là, ne s'y retrouvait pas sur le système d'EDF, voilà, de ce portail-là. Préférait vraiment continuer à gérer en interne toutes les formations et ensuite de demander à la Caisse des dépôts un remboursement.
D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. J'en vois pas, mais n'hésitez pas. Il nous reste 3 minutes pour conclure. Alors peut-être juste dire qu'effectivement, le CPF, on vient de le voir avec ces cas précis et concrets aussi au niveau d'une fédération ou d'une entreprise, ça peut être un outil efficace d'accès à la formation, d'autant plus que ça croise un certain nombre d'enjeux qui ont été aussi évoqués là. Alors bon, il y a l'obligation d'employabilité des salariés par l'employeur, mais il y a aussi cette réponse ou l'anticipation des besoins en compétences des salariés au regard des différentes évolutions, vous l'avez aussi évoqué, la fidélisation des salariés via une politique RH volontariste. Il y en a d'autres, donc on voit que c'est même un outil qui va au-delà du simple accès à la formation. Pour autant, il faut, on l'a dit, encore développer les pratiques. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on va essayer aussi de continuer. Et peut-être de s'investir un peu plus sur deux enjeux aussi qui sont venus plusieurs fois dans nos échanges. C'est arriver à peut-être mieux capter et comprendre les pratiques d'abondement des entreprises, pourquoi elles le font comment, mais aussi pourquoi elles ne le font pas pour améliorer. Alors on voit qu'on a des exemples par-ci par-là, mais ce qui serait bien, et Karine, vous l'avez évoqué aussi, c'est d'avoir des enquêtes peut-être un peu plus globales sur un champ plus large. Donc c'est aussi un de nos projets sur 2024, et de mesurer l'impact. On l'a dit aussi beaucoup, l'utilisation des fiches, les reportings que vous allez avoir aussi avec la caisse, qui sera un enjeu assez fort pour voir à quel point ces politiques peuvent être un levier aussi d'accès à la formation. On va en finir là, sauf si vous avez d'autres commentaires à faire. Merci beaucoup à nos intervenantes, que ce soit ici ou à distance. Merci à nos participants, merci à l'Académie MEDEF pour cette organisation impeccable.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.